Ah, très bien, je vous invite à ouvrir votre Bible dans le petit prophète Jonas. On est en train de parcourir, pas tout en profondeur, mais au moins les grandes lignes de ce petit livre, quatre chapitres seulement. Les chapitres ne sont pas longs. Et on avait dit que en parcourant très rapidement juste les chapitres, on voit que le thème de ce livre, c'est la miséricorde et la souveraineté de Dieu. On avait dit qu'on pourrait intituler ça Jonas, un prophète face à la miséricorde et à la souveraineté de Dieu. Alors, le chapitre 3, alors on se rappelle, hein, l'histoire de Jonas, peut-être pour ceux qui ne sont pas familiers, eh bien, c'est un prophète à qui Dieu donne l'ordre d'aller dans une ville, capitale assyrienne, Ninive, pour y crier contre cette ville. Et le prophète Jonas, il s'enfuit pour ne pas obéir à Dieu dans une autre direction, loin, donc il va jusqu'à. Il va à Jaffo, c'est ça. Il prend un bateau, il trouve là un bateau qui va vers Tarsis. On pense, certains commentateurs disent que c'est vers l'Espagne même. Et donc, il fuit vers là-bas. Et pendant qu'il est sur le bateau, eh bien, Dieu envoie une tempête. Cette tempête est terrible. Les marins, voilà, essayent de prier leur Dieu. Ce sont des païens, il ne se passe rien. Il secoue Jonas, il lui dit, lève-toi, prie ton Dieu, peut-être qu'il voudra nous écouter. Et puis Jonas leur raconte pourquoi toutes ces choses leur arrivent et que c'est parce que lui, il est en train de désobéir au Dieu de l'Éternel. Et donc, les marins, ils demandent aux marins ce qu'ils doivent faire. Ils disent qu'ils doivent le jeter par-dessus bord. Alors, on le jette par-dessus bord, la tempête se calme. Et la Bible dit que Dieu envoie un grand poisson qui va avaler Jonas. Et Jonas reste 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Et pendant qu'il est dans le ventre du poisson, eh bien, il prie. Et c'est ça qu'on trouve au chapitre 2, hein, qu'on avait vu la semaine dernière. Il prie. Et une prière de confession de son péché, de repentance, avec des accents en même temps. De remerciements à l'égard de Dieu, de vœux même qu'il prononce. Et puis à la fin du chapitre 2, il est dit que l'Éternel parle au poisson. Donc l'Éternel avait envoyé un poisson qui a avalé Jonas, un grand poisson. Et puis, les 3 jours après, l'Éternel parle au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Et on arrive donc au chapitre 3 de cette histoire et nous lisons à partir du verset 1, on va lire le chapitre 3 en entier, 10 versets, pas très long. Donc on essaye d'être attentif à ce que nous lisons, penser à réfléchir avec ce texte. Verset 1, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, une seconde fois en ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours. Et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et ils se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands. Que les hommes et les bêtes et les bœufs, les brebis ne goûtent rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent de toutes leurs mauvaises voies et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de faire et il ne le fit pas. Voilà. Bon, c'est une histoire intéressante, n'est-ce pas ? Sans doute le chapitre le plus central, on pourrait dire, hein, de l'histoire de Jonas, de ce livre. Parce qu'il y a ici, on peut voir une interaction entre Dieu, son prophète Jonas, et puis la ville de Ninive. Alors, peut-être une question pour vous. Quels sont les points essentiels de ce chapitre ? Si on lit, quelles sont les choses qui semblent, sans rentrer dans tous les détails, mais les choses essentielles de ce troisième chapitre de Jonas. Qu'est-ce qu'on peut souligner ? L'obéissance de Jonas, ça c'est un point, je pense, important, oui. L'obéissance de Jonas, oui. La repentance, hein ? La repentance de qui ? Des Ninivites. Et la repentance de Dieu. Oui, il a raison, hein ? Aussi, la repentance de Dieu, d'une certaine manière, oui. Et puis, on pourrait dire la repentance de Jonas. Il y a pratiquement trois repentances ici, hein ? Bon, c'est pas les mêmes. Les mots ne sont pas à prendre au même niveau, bien sûr, on va voir ça, mais c'est intéressant de souligner ça, parce que, bon, les Ninivites disent... au verset 9, qui sait si Dieu ne se repentira pas ? Et puis au verset 10, il est dit, alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire. Voilà, donc c'est intéressant, je ne sais pas si on aura le temps de voir ça aujourd'hui, mais c'est intéressant à voir, à souligner. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Oui, il y a la mission que Dieu a confiée à Jonas aussi. Et puis, il y a aussi la suspension du jugement de Dieu quand même. Hein. Jonas crie, il dit quoi ? Encore 40 jours et Ninive est détruite. Et puis, la Bible dit que Dieu ne fit pas cette destruction. Plus tard, Ninive a été détruite. Et si vous lisez le livre de Nahum, qui parle de Ninive, hein, le petit prophète, il parle de Ninive qui va redevenir encore une ville vraiment extrêmement sanguinaire et tout. Donc, dit comme cela, hein, tout paraît, je crois, simple. Ici, il me dit, bon, voilà, c'est l'histoire, Jonas, il va, il obéit, il prêche, les Ninivites se repentent, Dieu se repent du mal qu'il avait fait, et puis, voilà, il ne les punit pas. Voilà. Et puis après, on continue, on passe son chemin et on continue. Mais je crois qu'il s'agit là d'un... Il y a quand même un miracle, hein, qui se produit. Hein, et c'est le grand miracle de la repentance d'une ville entière. Combien d'habitants à Ninive ? C'est dit dans le livre. Hein. Enfin, je ne sais pas si c'est le nombre d'habitants, mais au moins le nombre d'hommes. 120 000. On trouve ça au chapitre 4. Hein. Au chapitre 4, à un moment donné, Dieu dit à Jonas, « Est-ce que je n'aurai pas pitié de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche ?» C'est beaucoup, hein, 120 000. Savez-vous, on ne regardait pas dans vos téléphones, combien d'habitants il y a à Saint-Denis ? 100 000 et quelques ? Qui dit mieux ? Plus ? Moins ? Ah, vous êtes habité Saint-Denis, vous ne saviez pas combien d'habitants il y a chez vous, c'est pas bien, ceux qui sont Saint-Denis là. Sylviane, tu devais savoir ça, toi. Tu mets un, c'est-à-dire un million ? 101 000, ah d'accord, non, c'est pas des enchères hein, quand même. Hein. Ouais. Eh bien, Jérémy a raison, il y a 100, en 2020, j'ai regardé sur Internet, il disait qu'il y avait 113, 116 000 ou quelque chose comme ça. 116 000, donc c'est à peu près ça, hein. 116 000 habitants. Donc c'est comme si, hein, ici, on disait, tout Saint-Denis s'était repenti, hein, à la prédication. Toute la ville de Saint-Denis s'était repentie parce qu'il y a quelques chrétiens de Saint-Denis qui sont allés crier dans la rue encore 40 jours et Saint-Denis n'est plus. C'est extraordinaire de voir ça. Et ça, c'est vraiment un miracle, sans doute l'un des plus grands, on peut dire, les plus grands réveils hein, de l'histoire, de voir toute une ville qui se tourne vers Dieu. Mais on peut quand même revenir un petit peu plus en détail dans ce qui est dit ici. Le chapitre 3, tout en nous parlant de ce réveil de Ninive, nous donne quand même des choses qui sont, des leçons qui sont importantes à retenir. Elle nous parle d'un prophète quand même qui est restauré. Le Jonas du chapitre 3, c'est pas le Jonas du chapitre 1. Et on peut dire qu'on voit ici un Jonas qui est restauré. On voit aussi Dieu, c'est la première chose que l'on voit, la première chose que l'on apprend de Dieu, c'est quoi ici dans ce passage, dans le chapitre 3, toute première chose. Si vous lisez le chapitre 3, qu'est-ce qu'il est dit? Dieu parla à Jonas précisément une seconde fois. On peut dire que Dieu, c'est, comme quelqu'un disait, c'est le Dieu de la seconde chance. Et même plus que de la seconde chance. Parce que souvent, il parle et il parle encore. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. Si, par exemple, nous avions proposé, imaginons que nous ayons beaucoup de pouvoir, beaucoup, et que pouvons commander aux gens d'aller faire des choses, et puis que nous ayons la possibilité de les punir s'ils ne le font pas. Nous avons quelqu'un comme Jonas à qui nous demandons de faire quelque chose, et puis la personne, elle fait le contraire, elle va à l'extrême opposé, etc. Elle se trouve dans une situation catastrophique, elle est sur le point de sombrer, parce qu'elle n'a pas fait ce que vous lui avez demandé. Vous venez, vous sauvez cette personne de cette situation désastreuse. Il pourrait dire, maintenant, c'est bon, tu as désobéi. J'aurais pu te laisser sombrer, je t'ai ramené. Et maintenant, voilà, je vais utiliser quelqu'un d'autre, parce que tu n'es pas fiable. Tu n'es pas fiable. Je pense que c'est naturel pour nous un peu d'agir comme cela. Mais Dieu, dans sa grâce, il envoie Jonas. Jonas désobéit, donc Dieu est offensé par cette désobéissance de Jonas. Quand Jonas sombre, il intervient et il le sauve, il le ramène et il l'utilise à nouveau. Il l'utilise à nouveau. Et Dieu agit de cette manière-là, avec ses enfants. On voit toujours un Dieu qui agit, qui donne, qui redonne les ordres qu'il avait même déjà donnés. Il a fait ça avec Abraham. Hein. Quand on lit l'histoire d'Abraham, quand Dieu dit à Abraham, « Vas-y, quitte ton pays, ta patrie, et va voilà, dans un lieu que je te montrerai », qu'est-ce que fait Abraham? Est-ce qu'il part tout de suite? Est-ce qu'il va tout de suite pour suivre ce que Dieu lui a dit? Bien, il part, la Bible dit qu'il va s'établir avec Térakh à Charan. Et lorsque Étienne raconte l'histoire, Étienne souligne le fait qu'il était dans Acte 7, verset 2, qu'il était encore à Charan, et Dieu lui dit « Va, quitte ton pays ». Donc c'est la deuxième fois, quand on dit bien, c'est la deuxième fois que Dieu lui dit ça. Il n'avait pas fait tout de suite. Et Dieu réitère encore son commandement. Si on lit Acte 7, verset 2, par exemple, hein, si quelqu'un là avant moi vous lisez, hein, Acte 7, verset 2, voilà, avant qu'il s'établisse à Charan, et lui dit. Et quand on lit en Genèse 12, versets 1 et 2, Genèse 12, donc Dieu est apparu avant, il dit, quand on lit Genèse 12, par exemple, hein, Genèse 12, verset 1, « Alors, est-ce que j'ai ça? 12, verset 1. Si on lit 31, déjà, 11, 31, il dit: Térakh, Abraham, prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aram, etc. Et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils, ils sortirent ensemble d'Uran Chaldée pour, donc ça c'est la Mésopotamie, Uran Chaldée, pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan. Ils sortirent pour aller jusqu'au pays de Canaan, donc ça, ici, et ils s'établirent jusqu'à Charan. Ils y habitèrent. Les jours de Térakh furent, etc. Et puis au verset 1 du chapitre 12, il dit: L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, et je ferai de toi une grande nation. Et donc on comprend que c'est quand il est à Charan qu'il a cette là. Et Étienne semble dire que avant même qu'il soit à Charan, Dieu lui avait déjà. Donc on peut penser qu'il y a peut-être voilà. Et dans ma Bible, c'est écrit qu'il y a une comme si c'est une perte de temps un peu, hein. Enfin, ça c'est le commentateur qui ajoute cela. Il dit, c'est intéressant, à la fin du chapitre 11, il dit: des années perdues à Charan. Ils partent pour aller en Canaan, mais ils s'installent à Charan, et puis Dieu donne l'ordre encore de partir. Donc Dieu, souvent, revient vers ceux qui peut-être, de ses enfants, qui n'obéissent pas forcément au premier ordre. On a un exemple avec Pierre aussi. Vous vous rappelez Pierre, lorsque le Seigneur le restaure, eh bien, il revient vers lui. Bon, Pierre était en train de... Il avait été choisi. Il avait suivi le Seigneur, et puis finalement, ils se sont dispersés, ils ont abandonné, ils se sont éloignés, mais le Seigneur revient vers lui et puis le restaure. Quelque part, c'est comme s'il lui donne encore une seconde chance. Et même Pierre, il est tout timoré, hein. On se rappelle de cette scène, hein, quand Dieu lui dit: Pierre, m'aimes-tu? Il est tout. Et le Seigneur vient vers lui, le rappelle, et on pourrait dire, on appelle ça parfois la réhabilitation, un peu de Pierre. La Bible dit que Dieu a parlé une fois, deux fois, et j'ai entendu ceci. Okay? Donc Dieu parle pas qu'une fois, il parle souvent plusieurs fois. Et Job disait: Dieu parle cependant tant d'une manière, tantôt d'une autre, et l'homme n'y prend point garde. Donc Dieu, c'est une grâce ici. Je crois que ce chapitre 3 témoigne de la grâce de Dieu. Ça commence avec la grâce de Dieu à l'égard de Job, et ça termine, je ne sais pas si vous sentez ça, à regarder à la fin du chapitre, ça termine par la grâce de Dieu à l'égard des Ninivites. Et tout ce qu'il raconte est enchâssé dans la grâce de Dieu ici. La grâce de Dieu à l'égard de Jonas, qu'il réhabilite, qu'il vient voir encore, qu'il utilise pour une seconde fois, et puis la grâce de Dieu à l'égard des Ninivites, qu'il ne va pas détruire à cause de leur repentance. Donc, Dieu de la seconde chance, on pourrait dire ça. Et puis, on peut dire aussi que ce qu'on voit dans ce passage, c'est que Dieu restaure, il restaure, et quand il restaure, c'est pour l'obéissance. Quand Dieu restaure, c'est pour l'obéissance ici. Alors, il dit au verset 2 et 3, je relis, hein: Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y une publication, la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva, il alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Le point de départ des ennuis de Jonas, c'était quoi? La désobéissance qui a conduit à la fuite. Et il a désobéi à quoi? À l'ordre que Dieu lui avait donné. Et maintenant, une fois qu'il est restauré, il se retrouve face à quoi? À la même parole, à l'ordre de Dieu. À l'ordre de Dieu. Et donc, si on compare Jonas 1, verset 1 et 2, il est dit, je lis Jonas 1, verset 1 et 2, Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle. Et Jonas, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et puis Jonas 3, versets 1 et 2. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Donc c'est quasiment la même chose, le même ordre que Dieu donne. Et notre nature est tellement tordue, hein, et nous pouvons être amenés à penser que Dieu a restauré, et puis bon, ben, maintenant l'orage est passé, la tempête s'est calmée, alors peut-être que la volonté de Dieu même a changé. Et comme les enfants, lorsque les parents expriment leur mécontentement ou punissent pour quelque chose qu'ils n'ont pas voulu faire, donc ils sont punis parce qu'ils n'ont pas voulu faire la chose, et puis après, ça passe, il y a la correction, j'espère, et puis tout revient dans l'ordre, et l'enfant se dit, bon, maintenant, je ne suis pas obligé de faire ce qu'il m'avait demandé à faire avant. Okay. C'est passé, j'ai pris une punition pour ça, c'est bien, voilà. Hein. Mais on voit ici que ce n'est pas ainsi que Dieu agit. Dieu n'a pas dit, bon, peut-être que Ninive, c'est peut-être un peu trop pour Jonas. C'est peut-être un peu trop pour lui. On va lui donner une plus petite mission à accomplir. Il ne faut peut-être pas le décourager. Il vient d'être restauré, on ne va pas lui mettre une charge comme Ninive. Il a eu du mal à la porter la première fois, il n'a pas tout compris, etc. Non, Dieu met Jonas devant le même ordre ici. Dieu n'a pas changé dans l'ordre qu'il donne à Jonas, parce que les ordres de Dieu ne sont pas négociables. Les commandements de Dieu ne sont pas des pistes de réflexion, n'est-ce pas ? Ce sont des ordres auxquels il faut absolument se soumettre. Alors Dieu reprend Jonas au point où les choses s'étaient arrêtées. Et c'était l'obéissance à sa parole. Et on voit ici que Dieu, quand Dieu restaure, il restaure pour l'obéissance. La restauration, ce n'est pas simplement un reconditionnement spirituel, hein, comme les téléphones. Alors, on achète des téléphones reconditionnés, hein, on a remis ça en état, c'est bon, ça peut fonctionner. Donc voilà, on a flanché, on est remis sur pied spirituellement, mais on peut faire ce qu'on veut. Non, quand Dieu restaure, il restaure pour qu'on obéisse à nouveau. Parce que c'est la désobéissance qui a amené la catastrophe pour Jonas, et donc Dieu le restaure pour qu'il puisse obéir. Et la restauration, c'est toujours une nouvelle disposition de cœur pour faire ce que Dieu veut. Le salut, c'est un cœur nouveau pour obéir à Dieu. Hein, si vous lisez Ézéchiel, il est dit, Dieu dit, je mettrai en eux un cœur nouveau, j'ôterai le cœur de pierre, je donnerai un cœur de chair, je mettrai ma loi dans leur cœur afin qu'ils fassent quoi ? Afin qu'ils obéissent. C'est ça qu'il appelle la régénération. On n'obéit pas à Dieu, mais quand on vient au Seigneur, il nous transforme, il nous donne son esprit, il fait pénétrer sa loi au-dedans de nos cœurs, et il nous rend capables d'obéir à sa loi. Et donc la restauration spirituelle, c'est pour l'obéissance. Mais quand on est enfant de Dieu et qu'on en pêche et que Dieu restaure, il restaure pour que l'on puisse obéir. C'est exactement ce qui s'est passé avec Pierre. Lorsque Dieu réhabilite Pierre, il lui dit, Pierre, m'aimes-tu ? Pierre dit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et puis, qu'est-ce que Dieu lui dit ? Paie mes agneaux, serre-moi, obéis. Tu vois ? Donc, c'est ça que Dieu lui donne comme commandement. Et donc, la meilleure manière, souvent, de voir la restauration, savoir s'il y a une véritable restauration, c'est de mesurer l'obéissance. C'est de mesurer l'obéissance. Et l'obéissance, précisément, dans les domaines où on n'obéissait pas. Quelqu'un restauré spirituellement, il n'obéissait pas là, mais il a flanché à cause de ça. Quand il dit « je reviens au Seigneur », eh bien, la véritable restauration se manifeste par une obéissance, même dans ces domaines-là. Le même ordre est donné à Jonas, et cette fois, Jonas obéit, parce que Jonas est un homme restauré. Ça, c'est, je pense, une chose qui ressort de ce passage-là, ici. Mais aussi, on veut voir, très rapidement, il y a la prédication de Jonas. Jonas va prêcher, Alors, en quoi consiste sa prédication? À votre avis, qu'est-ce qu'il a dû dire à ces Ninivites? Est-ce que vous croyez que ce qui est écrit là, c'est tout ce qu'il a dit? Qu'est-ce qui est écrit? Tout ce qu'on a de la prédication de Jonas, c'est combien de mots? Je ne sais même plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mots, quoi, à peu près. 6, 7 mots. Qu'est-ce qu'il dit? Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Voilà, c'est tout ce qu'on a. Est-ce que vous pensez que c'est tout ce qu'il a dit? Oui? Non, il a peut-être dit d'autres choses. Il a? Se tourner vers Dieu, probablement. On peut imaginer que, bon, il avait plus de vocabulaire que cela et qu'il a dû dire d'autres choses. Mais pourquoi est-ce qu'on en a que ça ici, à votre avis? Bon, peut-être que c'est qu'un résumé de ce qu'il a dit, mais pourquoi est-ce que c'est ce résumé que l'on a ici? Probablement, je pense que c'est parce que c'est ce que le Saint-Esprit veut que l'on retienne de ce qu'il a dit et de la prédication qui a amené une ville entière à se tourner vers lui. Si on nous avait dit, bon, allez, Jonas va à Ninive et puis il prêche ici. Essayez d'imaginer ce qu'il a prêché. Peut-être que nous dirions qu'il a prêché l'amour de Dieu. Il a dû dire, voilà, Dieu est un Dieu d'amour qui vous dit de vous tourner vers lui. Sinon, il va opérer une destruction, etc. Ou je vous en supplie, vous ne pouvez pas faire ça à Dieu quand même, après tout ce qu'il a fait pour vous. Des choses comme ça, des fois on entend des choses comme ça, n'est-ce pas? C'est pas ce qu'il a dit. Il a peut-être dit des choses qui pourraient ressembler à cela, mais Dieu veut que l'on retienne que ce qu'il y avait dans le cœur de sa prédication, c'était certainement le point essentiel de sa prédication, c'est 40 jours et Ninive sera détruite. Et il y a beaucoup de choses là-dedans, parce qu'il y a à la fois quoi ici dans cette prédication? Premièrement, il y a le jugement de Dieu qui vient. D'accord? Mais il y a sous-entendu là-dedans, et c'est ce qui se passe ailleurs. Et d'ailleurs, les Ninivites, ils l'ont compris. Hein, il y a un appel à se repentir. Appel à se repentir. Et c'est intéressant parce qu'ici, on voit qu'on ne dit pas, on n'appelle pas forcément à se repentir simplement quand on dit « Dieu vous aime ». On appelle à se repentir parfois quand on fait résonner la menace que Dieu va détruire, parfois, si c'est la parole que Dieu donne à prêcher. Et certainement, le Saint-Esprit ne retient que ça parce que c'était en substance ce que Dieu avait dit à Jonas de dire. Dieu avait dit « Va et proclame-y la parole que je vais te donner, juste ce que je vais te donner ». Et certainement, en substance, c'est ce que Dieu a dit. Tu ne dois pas manquer de dire cela. Parce qu'à la fin, on voit que Dieu ne fit pas ce qu'il avait résolu de faire. C'est-à-dire qu'il avait résolu de détruire la ville. Il veut que la ville le sache. Il veut que son serviteur le prononce. Donc on peut dire que Jonas prêche la venue imminente du jugement de Dieu ici. Et on pourrait penser que ce n'est pas très attirant comme message, ce n'est pas très fun, ce n'est pas... C'est pas quelque chose qui va amener des foules, mais ça n'a aucune importance. C'est ce que Dieu demande à Jonas de prêcher. Et c'est ce que l'homme pécheur a besoin d'entendre. C'est ce que l'homme pécheur a besoin d'entendre. Il a besoin d'entendre la menace, on pourrait dire, du jugement qui pèse sur lui. Et puis, la raison de cette menace aussi. Et on le voit au chapitre 1 et au verset 2, c'est la méchanceté et le péché. La Bible dit que la méchanceté est montée jusqu'à moi, ici. Donc Jonas prêche le jugement de Dieu. Et Jonas prêche même un délai de patience de Dieu, parce qu'est-ce qu'il dit? Il dit encore 40 jours. Je ne l'ai pas dit, Dieu va détruire tout de suite. Il dit encore 40 jours. Ça veut dire qu'il y a un laps de temps pendant lequel il faut faire quelque chose. Sinon, il aurait pu détruire tout de suite. Hein? Il aurait pu détruire tout de suite. Donc, Jonas prêche que Dieu est un Dieu patient, miséricordieux, compatissant, qui attend que l'homme se tourne vers lui. Et c'est ce qu'on peut lire. Hein? dans la Bible, hein, Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut que le pécheur se repente et qu'il vive. Et puis pourquoi on dit Jonas donne ce délai? Mais pour témoigner qu'il est vraiment patient. Romains chapitre 2, verset 4 dit, méprises-tu les bontés de Dieu et quoi qu'il dit? Sa longanimité ou sa patience, est-ce que tu négliges ça, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Il dit, c'est ainsi que l'on doit considérer les choses. De Pierre dit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Et donc, quand Dieu dit de proclamer le jugement, il sait que c'est ce message qui touchera précisément les gens et les amèneront à la repentance. Et en tant que prédicateur, nous n'avons pas le droit de modifier la prédication que Dieu nous demande d'apporter. On veut toujours peut-être parfois enjoliver les choses pour que ça soit plus acceptable, parler de l'enfer, parler du châtiment éternel. Ça ne résonne plus dans notre, comme disait quelqu'un, dans notre 21e siècle. Il faut trouver d'autres expressions. Mais Jonas crie, 40 jours et Ninive est détruite et la ville entière se repent. Et la ville se repent parce que c'est la parole de Dieu que Jonas prêche précisément. Il prêche la publication que Dieu lui ordonne de prêcher. C'est Dieu qui décide ce qui doit être prêché. C'est Dieu qui décide ce qui doit être prêché, ce n'est pas nous. Et sa parole nous dit ce qui doit être prêché. Jésus, quand il prêchait, il disait à ces personnes qui venaient, rappelez-vous, il y avait dans Luc des gens qui étaient venus le voir et puis qui lui racontent une histoire, etc. Un tour de Siloé tombé sur des gens, etc. Pilate qui a fait massacrer des gens. Et Jésus dit, vous périrez tous également si vous ne vous repentez pas. Vous allez mourir, vous allez périr si vous ne vous repentez pas. Le jugement viendra sur vous. Hébreu dit, il est donné aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et je crois qu'il faut, nous aussi, ne pas éluder cet aspect de la prédication de la parole de Dieu. C'est-à-dire dire qu'il y a un jugement à venir. Comme on avait vu dans Joël, d'ailleurs, vous vous rappelez, hein, que Dieu dit qu'il y a un jugement à venir. Il y a eu des sauterelles, mais les sauterelles annoncent un jugement encore plus terrible à venir. Et chaque fois, on avait dit, chaque fois qu'il y a une catastrophe qui se produit dans le monde, on doit toujours penser qu'il y a une catastrophe plus grande qui vient. C'est le jugement de Dieu qui vient sur le monde. Et hier soir, on parlait à la famille et puis on disait, mais est-ce qu'on pourrait sortir maintenant et puis dire encore 40 jours, encore là, Ninive, ils avaient 40 jours, donc ils se sont dépêchés pour se tourner vers Dieu. Mais maintenant, si on dit ça, les gens n'entendront pas. J'ai dit, mais c'est encore pire, parce que ça peut être, c'est pas 40 jours, c'est que ça peut être dans la seconde qui suit. Et justement, le délai est encore plus court, on ne sait pas, ça peut être 10 ans, mais ça peut être aussi dans l'instant qui suit, on ne sait même pas combien de temps nous-mêmes nous allons vivre. Et donc c'est pour ça que la Bible dit, quand nous entendons sa voix, nous ne devons pas endurcir notre cœur, parce que le délai, on ne le maîtrise pas. Ninive avait un délai, il savait que c'était 40 jours. Mais dans l'Écriture, Dieu ne dit pas que nous aurons 40 jours, que nous aurons un an, que nous aurons deux ans. Absolument pas. Absolument pas. Nous pouvons partir du jour au lendemain, et lui, il peut revenir du jour au lendemain aussi. Donc en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être soucieux de prêcher sa parole de cette manière-là. Et puis, quatrième chose que l'on voit ici, c'est vraiment la repentance de Ninive. Les gens de Ninive crurent Dieu, verset 5, ils publièrent un jeûne et ils se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Les gens de Ninive crurent Dieu, ils se repentirent. Les Ninivites répondent à la prédication de Jonas en plaçant leur confiance en Dieu. Alors, très rapidement ici, hein, quels sont les traits caractéristiques de leur repentance? Qu'est-ce qu'on peut noter ici comme signe d'une vraie repentance? Je crois que dans ce passage, il y a des choses qui nous montrent comment qu'est-ce que c'est qu'une vraie repentance à Dieu. Est-ce que vous pouvez les souligner ici? Est-ce que vous pouvez les voir? Là? Le jeûne? Alors, est-ce que simplement... Oui, est-ce que parce qu'on ne jeûne pas, on n'a pas une vraie repentance. C'est ça que ça veut dire ? Non, non. Voilà. Alors, il y a eu, pour eux, le jeûne. Ça, c'est quelque chose que l'on voit, d'accord ? Oui ? Froid ? Oui, voilà, prise de conscience de la nature de leur détournement de Dieu, oui. La foi dans la parole de Dieu. Humiliation, ouais. Ils reviennent de leur mauvaise voie. Voilà, c'est tout ça un petit peu. Alors, le jeûne, le fait de se couvrir de sac et tout cela, ça marque que dans cette repentance, il y a des choses qu'ils ont faites. Leur repentance s'est traduite par des actes. Ils ont fait des choses qui montraient qu'ils étaient dans un changement. Ouais. On reviendra plus tard sur, pas aujourd'hui, mais une autre fois, sur ce que c'est que, voilà, sur ce terme de repentance. Mais ici, on regarde juste les signes. Ils ont eu une repentance. Ils ont eu il y a eu une tristesse quand même aussi, hein, une vraie tristesse. Est-ce qu'on voit cette tristesse ici au verset 5 et au verset 7? Ils se couvrent de sacs. À l'époque, les gens qui se couvraient de sacs, c'était les gens qui étaient dans la désolation. Hein, quand il arrivait un malheur, une désolation, ils sont pris d'une tristesse, d'un remords, et ils se couvrent de sacs. Même ils ont couvert les bêtes aussi de sacs. Ici, tout le monde devait être triste. Ils ont même ordonné aux bêtes d'être tristes. Ils sont tellement allés tellement loin qu'ils ont même ordonné aux bêtes de crier à Dieu. Hein? C'est ce qu'on lit ici dans le passage. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens 7, 10, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. C'est intéressant comment Paul dit ça. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. On peut avoir une certaine tristesse, c'est pas simplement, on peut se recouvrir de ça et puis ça va pas plus loin. D'accord? Judas a eu une tristesse, mais ça l'a amené à la pendaison. Donc il y a une tristesse qui peut produire la tristesse du monde peut produire la mort. Mais la tristesse, selon Dieu, il dit, celle qui vient par le fait qu'on est pénétré par la parole de Dieu et qu'on se soumet à cette parole, ça produit une tristesse, un remords qui conduit à la repentance. On a dit qu'il y a eu la mise en action, hein, et on sait toujours dans la Bible que la repentance s'accompagne toujours d'œuvres dignes de la repentance. L'apôtre Paul dit, j'ai prêché, d'accord, à Damas, à Jérusalem, j'ai prêché la foi et la repentance et la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Et Jean-Baptiste disait la même chose, hein, il disait, produisez des fruits dignes de la repentance. Donc il y a des fruits qui sont attachés à la repentance. Et puis quelque chose qui est vraiment spécifique ici, c'est le verset 8. Regardez au verset 8, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, que les hommes, les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Il y a ici, comme l'a dit Jérémie, le détournement de péché, mais de péché, il ne dit pas ça de manière générale, mais de péché spécifique ici. Hein. Si on lit ici, il dit qu'ils reviennent de leur mauvaise voie des actes de violence dont leurs mains sont coupables. C'était des hommes violents. C'était une ville vraiment violente. Dieu dit au chapitre 1, sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et la Bible dit, ils se sont détournés de cela. Verset 9, ici, il dit, qui sait si Dieu ne reviendra pas, ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas de son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Vous voyez, ce n'est pas simplement qu'ils ont dit qu'il faut faire ça. Ce n'est pas simplement qu'ils ont dit, allez, qu'on se repente, qu'on le fasse. Il dit que Dieu a vu qu'ils l'ont fait, qu'ils étaient en train de le faire. Donc, c'est la vraie repentance traduit toujours le fait qu'on se détourne des péchés que l'on commet, des péchés bien spécifiques. Ce n'est pas toujours les mêmes pour chacun. Et il nous faut réfléchir à cela. Quels sont les péchés spécifiques de notre existence ? Le matérialisme, la paresse, l'orgueil, la jalousie, parfois le manque d'amour pour les frères et sœurs, toutes ces choses-là, quand on se repent vraiment, on se détourne de tout ce qui est mauvais, de ce qu'on reconnaît spécifiquement notre péché. De Timothée 2, 19 dit ceci, « Le Seigneur connaît ce qui lui... » Quel mot il vient après ? appartiennent. Et quiconque, et voilà ce qui lui appartient, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Quand quelqu'un dit, oui, Dieu m'a fait du bien, je suis restauré, mais maintenant je marche avec le Seigneur, et qu'il continue à pratiquer ce péché-là, ce péché-là, ce péché-là, c'est un problème. Parce qu'il dit que celui qui invoque le nom de l'Éternel, Dieu dit, ça se voit dans le fait qu'il se détourne de ses péchés spécifiques. Celui qui se repent véritablement, il se détourne, les Ninivites se détournent, et Dieu voit qu'ils le font. Ce n'est pas que des mots, c'est une réalité. Et c'est cette réalité-là qui engendre, qui constituera plus tard, bien sûr, associée à la grâce de Dieu, leur salut. Voilà, je vais m'arrêter là, mais on retient que Dieu est le Dieu de la seconde chance. Et quelqu'un disait, il est de la 999e chance. La Bible dit même qu'il pardonne jusqu'à 1000 générations. Dieu est toujours prêt à pardonner. Et il se laisse trouver par celui qui le cherche. Et on voit que pour Jonas, malgré sa désobéissance profonde, Dieu le ramène et Dieu le réhabilite, le restaure et l'utilise aussi à nouveau. On voit que Dieu restaure, pourquoi Dieu restaure? Il restaure pour l'obéissance. Il restaure pour l'obéissance. Il ne nous restaure pas pour qu'on soit assis comme ça ici, il nous restaure pour qu'on obéisse à sa parole à nouveau. Qu'on soit des enfants obéissants. Et c'est le signe d'une vraie restauration. Et puis, on voit que la prédication véritable qui amène des changements dans les cœurs, c'est celle qui consiste à dire ce que Dieu dit de dire, ce que Dieu demande de prêcher. Et on n'a pas la liberté d'enjoliver, d'élaguer le message, le contenu du message de l'Évangile. On doit le prêcher tel que Dieu le donne. C'est lui qui est l'auteur du message, de la parole qui sauve. Et puis on voit ce que c'est qu'une vraie repentance ici, quand on regarde dans ce qui se passe dans cette ville. Que le Seigneur nous aide avec cela, à méditer cela, et aussi à faire notre et à le mettre en pratique. Là, on va prendre des sujets de prière.